France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, la situation de l'hôpital est catastrophique. On peut avoir un effondrement en quelques mois. L'un des hauts responsables des hôpitaux de Paris lance un cri d'alarme très vif sur le manque de personnel. Vous l'entendrez. Dans le domaine de la santé, une grande sécu qui remplacerait les mutuelles. C'est possible, mais très cher pour les finances publiques. 22 milliards. EDF, accusé d'avoir dissimulé des incidents à la centrale du Tricastin dans la Drôme. C'est un cadre de la centrale qui porte plainte. L'électricien annonce par ailleurs qu'il va cesser de couper le courant aux familles en difficulté qui ne paye pas. La Fondation Abbé Pierre parle d'un jour historique. Dans l'actualité encore, dernières heures de négociation à la COP26. Quel est le parcours des migrants massés à la frontière entre Biélorussie et Pologne? Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu le 12 décembre. Et puis le salon du Made in France, passage obligé pour les candidats à l'Elysée, Jean-Luc Mélenchon ce matin. Vos rendez-vous à 13h30. Tout ce que vous voulez savoir sur les mots croisés, les verbicrucistes du Monde et de Libération sont nos invités. Secret de fabrication, comment devient-on verbicruciste? Et autres questions et curiosités, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Le feuilleton sur la transmission des exploitations agricoles, un site mettant en rapport acheteurs et vendeurs pour essayer de préserver une agriculture raisonnable.
Est-ce que demain on veut des fermes de 1000 hectares, de 10 000 hectares ou est-ce qu'on veut des fermes vivantes sur des modèles à taille humaine?
Le feuilleton est signé Thibault Lefebvre et puis c'est une chanson, nous célébrerons les 200 ans du Conservatoire de Marseille. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Une alerte de plus sur la situation de l'hôpital. Début octobre, le conseil scientifique estimait à 20% le nombre de lits fermés, faute de personnel. C'est moins, affirmait il y a quelques jours la Fédération hospitalière de France, 6%. On a aussi parlé dans ce journal des tensions aux urgences de Bourges ou Laval, entre autres. Ce matin, c'est un haut responsable de l'APHP, les hôpitaux de Paris, qui prend la parole. Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'APHP, et ses propos sont très alarmiste.
La situation à l'hôpital en ce moment, elle est catastrophique. Aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est qu'on manque de personnel. D'où des lits fermés. Alors, c'est surtout du personnel infirmier à Paris, région parisienne et dans d'autres régions. Il y a aussi un manque de médecins. Il y a des services d'urgence qui ferment faute de médecins, plutôt dans d'autres régions. Il y a des disciplines qui sont en très grande difficulté. Il y a des blocs opératoires qui ne tournent pas parce qu'on manque d'anesthésistes réanimateurs et d'infirmières anesthésistes. Donc, il y a aujourd'hui un problème de... On ne répond pas aux besoins en santé et on a la conséquence très pratique, c'est des interventions chirurgicales qui sont urgentes, qui sont reportées. On a été obligé de refuser une greffe de foie récemment pour un enfant. On a des gens qui attendent aux urgences parfois jusqu'à 24 heures avant de trouver de la place. Donc c'est inacceptable. Moi je dis aujourd'hui, c'est un cri d'alarme que je lance.
Le professeur Rémi Salomon avec nos confrères de France Info quant à l'intensité de la cinquième vague de Covid. Elle va dépendre selon lui du maintien des gestes barrières et de la capacité à revacciner ceux qui sont à plus de 6 mois. 12 603 nouveaux cas de Covid hier, il y a une semaine. On était à 9500. La santé, sujet politique autant que de vie quotidienne et sujet économique aussi. Peut-on envisager que la sécurité sociale prenne en charge seule, plus de mutuelles, la totalité des frais de santé aujourd'hui remboursés? Le ministre Olivier Véran veut manifestement explorer cette piste. Les reproches faits au système actuel sont de trois ordres. Il ne permet pas d'endiguer la hausse des frais de santé. Les restes à charge pour les patients sont parfois très élevés et les inégalités dans l'accès aux soins demeurent. Ajoutons que dans un contexte où l'inflation menace, les mutuelles envisagent d'augmenter leurs prix. Alors le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a donc travaillé sur le sujet. Véronique Julia, dans l'hypothèse haute, la grande sécu coûterait aux finances publiques 22 milliards d'euros.
Oui, en gros, si vous faites disparaître les complémentaires santé, vous basculez 19 milliards de remboursements sur l'assurance maladie. Vous ajoutez à cela les taxes que payent les mutuelles chaque année. La grande sécu coûterait au final plus de 22 milliards. Alors tout cela serait financé par des prélèvements obligatoires supplémentaires, mais les assurés s'y retrouveraient puisqu'ils ne paieraient plus de primes d'assurance. La réforme permettrait d'ailleurs d'économiser plus de 5 milliards de frais de gestion. Ce sont en fait les frais de fonctionnement des quelques 400 complémentaires santé en France. Pour l'économiste Frédéric Bizard, ce serait une très bonne chose. Il dénonce ces frais de gestion depuis des années.
Quand les Français vont aujourd'hui dans une pharmacie, le prix moyen d'un médicament courant est de l'ordre de 7 à 8 euros. Et vous avez deux assureurs qui payent, dont le second, la mutuelle, va payer 2 à 3 euros dont 50 centimes à 1 euro de frais de gestion. Donc le système génère une gabegie de dépenses administratives.
Des frais de gestion en moins, ce serait de fait une économie pour les ménages, un gain annuel de 100 à 170 euros. Pour autant, ce transfert complet à l'assurance maladie est-il une bonne idée? Jean-Paul Ortiz préside la Confédération des syndicats médicaux français, la médecine libérale, donc il y est hostile. Si l'assurance maladie reprend tout, qui paiera, par exemple, dit-il, les dépassements d'honoraires?
La grande sécu, c'est l'étatisation du système de santé, de son financement. Ça veut dire que les médecins libéraux seront exclusivement dépendants de l'assurance maladie. C'est pas ce que je veux pour mon pays.
Alors, précisons que ce transfert complet à l'assurance maladie n'est qu'un seul des quatre scénarios qui sont à l'étude. Les trois autres imaginent plutôt de nouvelles répartitions entre assurance maladie et mutuelle. Rien ne se fera de toute façon avant la fin du quinquennat, mais ça pourrait devenir un sujet de campagne.
Et ce sont nos confrères des Échos qui ont publié ce matin les premières conclusions du rapport provisoire qui sera formellement examiné par le Haut Conseil jeudi prochain. Une affaire de viol sur une militaire à l'Élysée. C'est une information de nos confrères de Libération dont France Inter vient d'avoir confirmation. Une information judiciaire a été ouverte le 12 juillet dernier. Un militaire est placé sous le statut de témoin assisté. Les faits seraient survenus le 1er juillet dernier après un pot de départ au sein de la présidence de la République. Selon l'agence France-Presse, l'information judiciaire est ouverte pour viol. À l'heure où le président de la République confirme la relance de programmes nucléaires en France, une plainte vient rappeler les risques et la nécessaire transparence dans cette industrie. C'est un cadre de la centrale de Tricastin dans la Drôme qui porte plainte contre EDF, contre aussi le directeur du site et l'ancien directeur de la production. Son accusation est la suivante. À la centrale de Tricastin, on a masqué à l'autorité de sûreté nucléaire des anomalies en 2017 et 2018 et il dit avoir été placardisé pour s'être opposé à ces pratiques, Manuel Ruffez.
Il est en arrêt maladie d'ailleurs aujourd'hui, ce cadre anonyme d'EDF qui a travaillé pendant 20 ans à la centrale du Tricastin et qui aurait subi, selon ses dires et selon son avocat William Bourdon, un véritable harcèlement professionnel avec des conséquences aujourd'hui physiologiques et psychologiques.
Non seulement il est insulté, non seulement il est mis à l'écart, alors qu'on aurait dû prendre en compte tous ces signalements, on les méprise, mais on le méprise lui-même et on va plus loin puisque... La plainte est également déposée pour des faits de harcèlement très, 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 très caractérisés.
Alors, ce qu'il dénonce, ce sont des dysfonctionnements, des incidents en série qui auraient dû faire l'objet d'un signalement à l'autorité de sûreté avec des preuves documentées, convergentes et rigoureuses, affirme encore son avocat.
Cette politique de dissimulation, de graves dysfonctionnements, n'était pas le fruit d'incidents isolés, mais s'inscrivait dans une logique systémique, structurelle. Et c'est ce qui fait évidemment le caractère crucial et essentiel des faits qui ont été dénoncés.
Alors pourrait-il s'agir d'un salarié réglant ses comptes avec sa hiérarchie? William Bourdon rejette en bloc, affirme que son client, au contraire, est un salarié dévoué.
C'est vraiment à contre-cœur, qui s'est résolu devant le mépris dont il a fait l'objet, dont on fait l'objet, l'ensemble de ses signalements, à déposer cette plainte.
Aujourd'hui, EDF ne souhaite pas commenter les propos de ce salarié et conclut « la justice tranchera ».
Et le plaignant se présente donc comme un lanceur d'alerte. À propos de lanceur d'alerte, Frances Haugen, ancienne salariée de Facebook, qui accuse la firme de préférer le profit à l'humain et a fait fuiter des milliers de documents, elle est-elle invitée ce matin de France Inter? C'est à réécouter sur franceinter.fr. Quant à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, il est autorisé à se marier en prison, annonce sa compagne, l'avocate sud-africaine Stella Morris. Il est à Londres dans l'attente d'une décision sur une éventuelle extradition aux États-Unis. Les USA veulent le juger parce qu'il a publié des documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines. On parlait d'EDF à l'instant, de l'électricien Eman aussi. Cette annonce en cette fin de semaine, EDF ne coupera plus le courant aux clients en difficulté qui ne payent plus leurs factures, et ce, toute l'année, pas seulement pendant la trêve hivernale. Avec nous, Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
J'imagine que vous saluez la décision.
Oui, tout à fait, c'est une décision historique. Ça fait des années qu'on se bat pour l'abolition de cette peine sociale dans notre âge, hein, la coupure de courant pour les ménages en impayés. Et enfin, aujourd'hui, EDF, qui représente quand même 70% encore des clients d'électricité, renonce à couper l'électricité et propose de remplacer cela par une réduction de puissance quand il y a des impayés caractérisés, mais qui permettrait tout de même d'avoir une vie sociale minimale, une sorte de service minimum de l'électricité. Ce serait 1000 watts, ça permet d'avoir un frigo, d'avoir des aliments, des médicaments frais, d'avoir la lumière, de recharger son téléphone, son ordinateur, d'avoir Internet. vraiment, c'est pas le grand confort, mais ce serait beaucoup mieux que la coupure, que le blackout, qui est une peine qui est subie par 280 000 ménages chaque année, une peine extrêmement humiliante pour soi, pour ses enfants. Donc c'est une vraie avancée, je dirais presque de civilisation. C'est pas le grand soir, mais autant il y a 15 ans, on avait interdit les coupures d'eau pour les personnes en impayées. Aujourd'hui, c'est un pas en avant. On attend que les autres fournisseurs le fassent aussi. C'est un pas en avant vers l'abolition de ces coupures d'électricité.
Et il y a un argument économique. Au fond, EDF reconnaît, disons-le comme ça, que limiter la puissance est aussi efficace dans la plupart des cas pour recouvrer les factures que de couper carrément l'électricité.
Oui, absolument, parce que je l'ai dit, 1000 watts, ça ne suffit pas pour vivre normalement. Donc les ménages qui auraient les moyens d'honorer leurs dettes, de rembourser les impayés, le feront rapidement, parce que personne n'a envie de vivre avec seulement 1000 watts. Mmh. Par contre, pour les autres qui ne peuvent pas, qui sont précaires par définition, ils auront ce minimum. Il y a une expérimentation qui a été menée par Plume Énergie, un petit fournisseur social et vert depuis quelques mois, justement, qui va dans ce sens et qui montre qu'il n'y a pas d'impayés qui augmentent et que les ménages, une fois qu'ils ont subi une réduction de puissance, se mettent à rembourser la dette quand ils le peuvent, autant que quand il y avait les coupures totales d'électricité. Donc c'est quelque chose qui est quelque part gagnant-gagnant. Et je veux dire, c'est aussi un combat de beaucoup de salariés en interne à EDF depuis des décennies, parce que c'est aussi douloureux pour des salariés d'un opérateur historique comme EDF de couper l'électricité aux pauvres. Et bien enfin, c'est aussi leur victoire aujourd'hui.
Alors maintenant, Manuel Domergue, les autres opérateurs vont être obligés de suivre. Ils ont une pression un peu plus forte pour accomplir le même geste.
Ah oui, nous avons une réunion avec le ministère de la Transition écologique, Enedis et tous les fournisseurs le 18 novembre, la semaine prochaine, qui était consacrée à ce sujet-là. La tonalité sera, j'espère, un petit peu différente de celle qui était prévue. Et EDF met une pression forte sur les autres fournisseurs et j'espère qu'ils feront la même chose. Et que s'ils ne le font pas volontairement, il faut que l'État vote dans la loi qu'en France, aujourd'hui, on ne peut pas couper le courant chez les pauvres.
On peut imaginer la même chose pour le gaz ?
Alors pour le gaz, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de réduction de puissance possible.
Oui.
On coupe ou on maintient. Donc c'est assez différent. Alors je rappelle quand même que pour le chauffage, il y a la trêve hivernale pendant laquelle on ne peut pas couper le chauffage, on ne peut pas couper l'énergie des ménages. Donc on y est en ce moment, hein, c'est de novembre à mars.
Oui.
Mais en effet, ça reste un point aveugle de ces dispositions. Et pour cela, il y a deux solutions. Il y a le chèque énergie. On appelle à le revaloriser. Il a déjà été augmenté ces derniers mois et années. Mais il faut que les gens puissent se payer le gaz, l'électricité en fonction de leurs besoins. Et puis rénover les passoires énergétiques. Parce que s'il y a aussi des consommations d'électricité et de gaz importantes, c'est aussi parce que les logements parfois sont mal isolés. Il y a 5 millions de passoires énergétiques. Et ça doit être une priorité pour notre pays.
Merci Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, d'avoir répondu à nos questions. J'ajoute que France Inter a consacré une journée spéciale à la précarité énergétique cette semaine. On peut réécouter les différentes interventions et émissions sur franceinter.fr. Donc voilà pour cette annonce d'EDF qui annonce qu'il ne coupera plus le courant aux clients en difficulté, et ce toute l'année, pas seulement pendant la trêve hivernale. Quel est le parcours de ces milliers de migrants massés à la frontière entre Pologne et Biélorussie ? Les Occidentaux accusent la Biélorussie d'orchestrer leur venue pour déstabiliser l'Union européenne. Après deux entretiens Merkel-Poutine en deux jours, l'Allemagne appelle à renforcer les sanctions contre la dictature biélorusse. Minsk, de son côté, menace de perturber l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Un important gazoduc passe par la Biélorussie. Et au milieu de cette épreuve de force, il y a donc les migrants. Que sait-on, Claude Guibal, de leur lieu de départ et du chemin qu'ils ont emprunté ?
On pourrait presque appeler cela un pont aérien. Depuis le printemps, ce sont des dizaines de liaisons aériennes qui ont été mises en place depuis 57 villes du Proche et du Moyen-Orient. Toute destination Minsk, la capitale de Biélorussie, des vols directs depuis les Émirats, le Liban, l'Irak, y compris depuis des villes secondaires comme Soulaymania, Erbil ou Bassora, des vols quotidiens même depuis Bagdad ou Damas. Et ce ne sont pas des passeurs clandestins, mais des voyagistes qui se sont mis alors à proposer en partenariat avec des agences de voyage biélorusses des séjours à Minsk contre quelques centaines de dollars au départ, avec visa, tout ce qu'il y a de plus officiel proposé par des organismes biélorusses. En filigrane évidemment, la perspective, une fois arrivé aux portes de l'Europe, de passer clandestinement, avec l'aide de passeurs cette fois et quelques milliers de dollars en plus, la frontière avec la Pologne. Ces dernières semaines, sous la pression de l'Union européenne, certains vols directs ont été suspendus, mais les candidats au voyage ont contourné l'obstacle en se dirigeant vers les liaisons maintenues aux Émirats ou en Turquie, la Turquie qui, depuis ce matin, interdit désormais aux Yéménites, Irakiens et Syriens d'embarquer à bord des vols de la compagnie biélorusse Belavia.
En France, Amnesty International appelle la Biélorussie et la Pologne Allemagne a autorisé journalistes et humanitaires à accéder à la zone frontalière. Amnesty appelle aussi l'Europe à prendre des mesures de solidarité, relocaliser les migrants arrivés sur le territoire polonais. Quant à la Russie, elle assure que les livraisons de gaz russes à l'Europe ne seront pas suspendues. Moscou espère une mise en service rapide de son nouveau gazoduc Nord Stream 2 qui relie Russie à Allemagne via la Baltique et qui divise les Européens. Est-ce qu'on jouera les prolongations? La conférence climat de Glasgow se termine officiellement ce soir à 19h, heure de Paris. C'est le moment donc des dernières négociations avant la déclaration finale. Quels engagements fermes et définitifs? À quelle fréquence doivent-ils être remis à jour dans un sens plus exigeant? Autre question, quelle indemnisation de la part des pays riches, principaux émetteurs de gaz à effet de serre, pour les pays pauvres, principales victimes? Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Glasgow. Une nouvelle mouture de projet de résolution finale a été présentée ce matin, Sandy.
Oui, c'est de la dentelle, hein, car le texte doit convenir à tout le monde. Alors cette deuxième mouture réaffirme l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Le texte appelle les États à prendre des engagements plus stricts, plus régulièrement dès 2022 et insiste aussi sur les objectifs à court terme, c'est-à-dire d'ici 2030. Au chapitre de la finance climat, les pays développés sont invités à faire plus d'efforts pour aider le reste du monde à faire face au réchauffement climatique, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas tenu leur promesse des 100 milliards de dollars par an. Pour la première fois, un texte de fin de COP mentionne les énergies fossiles à l'origine du mal. Hier, dans le brouillon du texte, on pouvait lire « Il faut accélérer la sortie du charbon et des subventions aux énergies fossiles ». Cette phrase a disparu, remplacée par une formulation beaucoup plus édulcorée. Les pays sont par exemple invités à limiter les financements, je cite, « inefficaces aux énergies fossiles ».
Alors ça Sandy, c'est pour la plénière officielle, mais parallèlement, les militants, les jeunes en particulier, organisent leur propre plénière.
Oui, dans une salle mise à disposition par la présidence britannique de la COP26, la société civile s'est réunie ce matin pendant plus d'une heure et demie. Des représentants de communautés locales, des étudiants, des ONG se succèdent à la tribune. Certains ont choisi de lire à voix haute le dernier rapport du GIEC.
Science has delivered. Now it's your turn.
La science a fait son travail, à votre tour d'agir, c'est le message répété en boucle aux dirigeants et aux négociateurs dans cette sorte d'agora de la COP26, Nicolas Héringer de l'ONG 350.org.
La plénière des peuples, c'est le moment où on va présenter nos revendications, dire notre désaccord avec l'accord de Glasgow. Nous, notre prise de parole, c'est pas du blablabla, c'est concret. On fait pression jusqu'au dernier moment parce qu'on rentre dans les dernières heures des négociations, donc c'est le moment où généralement l'accord est détricoté. Donc nous, on fait notre propre plénière pour dire qu'on a des revendications, qu'elles doivent être entendues. C'est là que se passent les choses, c'est là que se passe l'action pour le climat.
Il y a quelques minutes, les participants sont sortis pour aller manifester dehors et on attend la réunion plénière officielle des délégués qui doit examiner le nouveau projet de texte de fin de COP 26.
Et on sent que la pression monte, il y a de l'ambiance derrière vous. Merci Sandy Dauphin en direct de Glasgow pour France Inter avec Martin Troadec. J'ajoute que la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, annonce ce matin que la France rejoint les pays de la coalition qui s'engagent à ne plus financer les énergies fossiles à l'étranger, entrée en vigueur en 2023. L'absence de la France de cette coalition suscitait beaucoup de questions. Cela veut dire en particulier plus de subventions aux projets gaziers en Afrique. Il y a une semaine, elle avait accusé un haut dirigeant communiste, ancien vice-premier ministre, d'agression sexuelle. Depuis, la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, vainqueur de Roland-Garros en double en 2014, ne donne plus de nouvelles. Tous les commentaires la concernant ont disparu des réseaux sociaux chinois. Des personnalités publiques qui sortent complètement des écrans radars quand elles dérangent le pouvoir. Hélas, ça n'est pas une première. France Inter à Pékin, Dominique André.
Les accusations de Peng Shuai contre l'ancien Premier ministre Zhang Gaoli sont restées une vingtaine de minutes sur Weibo, le Twitter chinois. C'est la première fois qu'un haut dirigeant du Parti communiste a été touché publiquement par de telles révélations, tombées dans une séquence politique sensible avec le plénum du comité central du parti, qui a été chargé de glorifier l'action historique du Parti communiste. Où est-elle? Le compte Weibo de l'ancienne championne n'existe plus. La censure a frappé, comme pour les personnalités publiques qui tombent en disgrâce en Chine pendant quelques temps. Par exemple, la grande star du cinéma et femme d'affaires milliardaire Zhao Wei, boycottée par les plateformes de téléchargement de films depuis le mois d'août, ou bien l'actrice Fan Bingbing, introuvable en 2018 pendant 3 mois, qui s'est excusé ensuite d'avoir fraudé le fisc. Quant à Jack Ma, l'icône d'Alibaba, il reste très discret après avoir disparu durant plusieurs mois l'an dernier à la suite de ses critiques contre les autorités financières chinoises. Les stars rentrent dans le rang. Pékin, Dominique André, France Inter.
En Birmanie non plus, la liberté d'expression n'est pas au goût du jour, tout particulièrement depuis que les militaires ont pris le pouvoir en février. Un journaliste américain, Danny Fenster, vient d'être condamné à 11 ans de prison, notamment pour incitation à la dissidence. Il a été rédacteur en chef d'un journal indépendant dans le pays. Trois migrants portés disparus en Manche après avoir tenté la traversée. Un millier de personnes ont tenté la traversée pour la seule journée d'hier. C'est un sujet de tension, vous le savez, entre France et Grande-Bretagne. Londres juge inacceptable ce nombre de traversées. Même si le Covid n'a pas disparu, le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu, annonce, après feu vert de l'État, du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Patrice Faure, qui était en déplacement dans un village indépendantiste à l'est de l'archipel.
Cette nuit, l'information m'est arrivée que ce troisième référendum ne sera pas fragilisé par des conditions sanitaires, puisque la crise sanitaire est maîtrisée, et donc les Calédoniennes et les Calédoniens qui souhaitent, peuvent, se rendre aux urnes le 12 décembre, pourront le faire dans la paix, dans le calme.
Le 12 décembre, donc, bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Les partisans du non à l'indépendance se réjouissent, les indépendantistes pas du tout.
Ils s'y attendaient, 70% de vaccinés, plus que 12 patients en réanimation et hier 27 cas positifs. La situation est maîtrisée, mais les indépendantistes restent sur la même ligne en appelant tous les partisans du oui à rester chez eux le 12 décembre. Ils prônent la non-participation, évitant le terme boycott. Le président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, interrogé par Béatrice Duguay, appelle les 18 mairies indépendantistes à ouvrir les bureaux de vote, comme d'habitude, mais il redoute la violence, la colère d'une partie de la jeunesse kanak.
Dans le Grand Nouméa, on a 30 000 jeunes qui n'ont jamais été en tribu, qui connaissent même pas leur famille, qui connaissent pas les partis politiques, qui n'obéissent à aucun consigne. Est-ce que la France il est prêt à rejouer l'épisode de Ouvert? Le Cornu et Macron, c'est des nouvelles générations qui n'ont pas vécu ça. Eh bien, nous avons payé.
Est-ce que la France est prête à rejouer l'épisode d'Ouvéa? Menace puissante, la prise d'otages d'Ouvéa 1988, 19 morts. Plus de 2000 gendarmes seront déployés le 12 décembre. Le ministère des Outre-mer se montre ferme, quels que soient les débordements, les manifestations, le résultat sera respecté. Les indépendantistes ont de toute façon compris qu'ils allaient perdre une troisième fois après tout ce que l'État a fait pendant la crise Covid. Ils refusent donc l'obstacle pour délégitimer le scrutin, en demander un nouveau plus tard, puisque le temps joue en leur faveur grâce à la démographie kanak. C'est ça l'analyse qui est faite à Paris. Alors qu'à Nouméa, on se dit malheureusement que ce processus de décolonisation est très loin de s'achever et que cette instabilité ne profite à personne.
Et alors que la crise sanitaire a replacé la question de la souveraineté économique dans le débat, le lieu pour mener campagne en cette mi-novembre, campagne pour l'Élysée, c'est le salon du Made in France, porte de Versailles à Paris, c'est jusqu'à dimanche. Y passe, rien que pour aujourd'hui, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon ce matin, Laurence Perron.
Une demi-heure pour faire 12 mètres et pas seulement à cause de la meute des journalistes.
En fait, on est deux infirmiers qui avons eu une belle idée. On a pris les biscuits du monde qu'on a miniaturisé en forme de bille. Ça, je sais que vous connaissez, c'est la corne de gazelle. On l'a fait en petite forme de bille. Le truc, monsieur Mélenchon.
Qu'est-ce qui vous a dit que j'étais gourmand?
Parce que ça se voit, monsieur Mélenchon. Et vous aimez les bons produits made in France.
Corne de gazelle.
Ouais, je vous laisse la carte, monsieur. Merci beaucoup pour
votre temps, monsieur. Je vais vous offrir juste un petit cadeau.
Épuise un fabricant de nœuds-papes en bois.
Je pense qu'ils vont se moquer de moi.
Mais pourquoi se moquer de vous? Regardez, est-ce que je suis pas élégant avec mon nœud papillon.
Mais oui, monsieur, parfait.
Des étudiantes en BTS.
Vive Orléans.
Regardez ce qu'on a, ça me plaît sympa.
On a été invité pour les photos à la grande exposition du fabriqué en France, vous savez, en juillet.
Et alors vous avez embarqué tous les stylos.
Par votre ami Manu, on a embarqué tout ce qu'on a pu.
Jean-Luc Mélenchon s'amuse que tout le monde aujourd'hui défende le Made in France.
La tactique politique consiste à rendre hégémonique une idée. Une fois que vous l'avez, que tout le monde la partage, vous avez gagné. Parce que après, il faut que les uns et les autres s'expliquent sur pourquoi ils ne le font pas. Et tous ceux qui disent à la fois « vive le Made in France » et « vive les traités européens », c'est eux qui ont une contradiction, c'est pas moi. Moi, je m'amuse beaucoup de voir la gaulomania qui les prend tous. hein. Mais tant mieux. Si ça rend hégémonique l'idée que la France doit être indépendante, moi j'y trouve mon compte, hein.
À ce rythme, et quelques 200 mètres parcourus seulement, il pourrait sans doute croiser ici Arnaud Montebourg, attendu pour 15 heures.
Et Arnaud Montebourg qui plaide pour un nouveau délit de trahison économique de son côté. Pour les dirigeants qui vendraient des entreprises françaises à l'étranger, il ne donne pas beaucoup plus de détails. Laurence Perron avec Geoffrey Marianne et Célestin Navarro au salon du Made in France. Demain, y passe Yannick Jadot et dimanche, Éric Zemmour. Vous vous souvenez peut-être du crash qui avait coûté la vie au footballeur argentin de Nantes, Emiliano Sala. C'était en 2019. Eh bien, l'intermédiaire qui a organisé le vol vient d'être condamné à 18 mois de prison par un tribunal au Pays de Galles. On attend toujours l'explication de cette étrange histoire. La jeune fille qui a disparu lundi en Mayenne avant de réapparaître dans un restaurant mardi soir est de nouveau entendue par les gendarmes aujourd'hui. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Il reste beaucoup de points obscurs dans ces 24 heures dans la vie de Lisa, Mathilde.
Oui, Lisa affirme avoir été enlevée par deux hommes qui circulaient dans une camionnette verte. Les gendarmes ont donc interrogé les riverains pour savoir si quelqu'un avait aperçu le véhicule. Ils inspectent aussi les images de vidéosurveillance de la commune où la lycéenne est réapparue, la commune de Sablé-sur-Sarthe, qui se trouve à une dizaine de kilomètres du lieu de sa disparition. C'est là que Lisa trouve refuge, dans un kebab. Quand les secours la prennent en charge, elle est en état de choc et légèrement blessée. Que s'est-il passé donc pendant ces 24 heures? Comment s'est-elle enfuie? Pourquoi son téléphone, ses écouteurs et sa montre sont retrouvés sur le parcours de son jogging? Les enquêteurs veulent des précisions sur son récit. 30 gendarmes de la section de recherche d'Angers et de la compagnie de Château-Gontier travaillent sur cette enquête. Et la procureure de Laval reste très prudente. Elle doit communiquer d'ici ce soir.
C'est une question de société autant qu'une affaire qui touche une vedette. Un tribunal de Los Angeles devrait enfin décider aujourd'hui de rendre le contrôle de sa vie à Britney Spears et lever la mesure de tutelle qui pèse sur elle depuis 13 ans. Sur le papier, le couple est toujours aussi intéressant, même s'il n'a pas convaincu le week-end dernier face à l'Argentine. En rugby, les deux ouvreurs, Romain Tamac et Mathieu Jalibert, joueront de nouveau l'un près de l'autre dimanche face à la Géorgie. C'est la tournée d'automne du 15 de France. Le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé la composition ce matin, Fanny Lechevestrier.
On n'a pas oublié la petite moue contrariée de Romain Tamac sortie samedi dernier dès la 50e minute de jeu face aux Argentins. Mais laisser le temps au temps, c'est le leitmotiv du jour à Marcoussis, le centre d'entraînement du 15 de France. Tout en reconnaissant que le match du week-end dernier avait un goût d'inachevé avec un manque de communication parfois entre les deux joueurs, Fabien Galthié a aussi souligné le manque d'expérience du duo à jouer ensemble avec le Bordelais, Mathieu Jalibert à l'ouverture et le Toulousain Romain Tamac placé en premier centre. On redémarre cette fois-ci avec une semaine de vécu supplémentaire, a expliqué le sélectionneur, adressant au passage un petit pic à la presse pour ne pas brûler trop vite ce qui nous a fait rêver. Surtout que l'objectif martelé régulièrement par le staff tricolore, c'est encore et toujours de construire en vue de la Coupe du Monde 2023 en France. À ce sujet, autre fait à retenir dans ce 15 de départ, la toute première sélection de l'ailier du Stade Toulousain Mathis Lebel, 22 ans. Ils seront d'ailleurs encore 6 Toulousains à être titulaire dimanche après-midi à Bordeaux.
Coup d'envoi en effet, dimanche après-midi, 14h précisément. Avant cela, en football, le match de qualification pour le mondial France-Kazakhstan, les Bleus de retour au Parc des Princes, c'est donc demain à 20h45. Dans un instant, la météo, puis nos invités, toutes vos questions sur les mots croisés, c'est le moment ou jamais, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir.
En ce moment, comme je ne peux pas aller voir maman, je l'appelle en visio, sur sa tablette ardoise. Ça la rassure. Et je dois avouer que moi aussi.
Avec la tablette ardoise proposée par La Poste, les seniors découvrent la joie d'être connectés à Internet et à ce qu'ils aiment. Et jusqu'au 31 janvier, la tablette est à 199€ hors prix de l'abonnement au service ardoise. Une solution mon bien vivre à retrouver à La Poste ou sur ardoise.com.
Glanafrique, le nouveau roman de Karine Giebel vient de paraître. Une fois de plus, Karine Giebel nous plonge au plus profond de l'âme humaine. Léonard est différent, exclu d'une société qui ne veut pas de lui. Son quotidien, les insultes, la haine. Ce qu'il aimerait, c'est fuir, être ailleurs, loin d'ici, à Glenafrique. Être en enfer et rêver d'ailleurs. Glenafrique de Karine Giebel, un roman d'une émotion rare, aux éditions Plomb.
Un tout petit mot avant la météo pour vous parler de Madeleine Riffaut, héroïne de la Libération de Paris, dont on vous a raconté les difficultés administratives ce matin. Sa pension militaire ne lui était plus versée. Eh bien, elle a finalement reçu un coup de fil ce matin du ministère lui disant que l'affaire était réglée. Retour de la pension. Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Jean-Pierre Rameau.
Bonjour Bruno.
Jean-Pierre, une perturbation arrive par l'ouest.
Oui, elle touche actuellement la Bretagne et le Cotentin. Elle va progresser vers l'intérieur cet après-midi pour gagner les pays de la Loire, la Haute-Normandie, la région parisienne et les Hauts-de-France. Les pluies associées seront très faibles. Vous retrouverez des averses aussi sous un ciel nuageux entre Corse et continent. Puis dans les autres régions, le soleil va s'exprimer largement, sauf vers le plateau Lorrain, la plaine d'Alsace et du Val-de-Saône au Lyonnais où la grisaille ne décollera pas. Puis côté température, les maximales évolueront entre 5 et 19 degrés. N'attendez pas plus de 4 ou 5 degrés à Strasbourg, comptez 6 à Dijon et Besançon, 7 à Lyon et Nancy, 9 à Lille, 12 à Paris. On ira jusqu'à 14 degrés à Toulouse, 17 à Bordeaux, 18 à Toulon et jusqu'à 19 degrés à Limoges comme à Bastia.
Merci Jean-Pierre Rameau, Météo France. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Et pour vous présenter nos invités du jour, je voudrais commencer par une définition sadique qui nous donne du plaisir. Mettons-le au pluriel, ça fait 14 lettres. Je vous donne la première, c'est un V. Mettons-le par exemple en horizontal. Alors peut-être faites-vous le pont après le 11 novembre. Peut-être en profitez-vous pour faire quelques grilles de mots croisés. Comment travaillent leurs auteurs? Est-ce qu'ils ont des trucs? Sont-ils des agrégés de grammaire ou d'orthographe à bac plus 15 ou de simples pervers, à moins qu'ils ne soient de sympathiques camarades? Y a-t-il une confrérie des auteurs de mots croisés qui se réunirait les soirs de pleine lune, une fiole d'encre de Chine à la main pour remplir les cases noires? Tout ce que vous voulez savoir sur les mots croisés, les amateurs de mots fléchés sont également acceptés au standard 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique Réagir. Bonjour Philippe Dupuis.
Bonjour.
Et bonjour Gaëtan Goron.
Bonjour.
Sadique qui nous donne du plaisir en 14 lettres, commençant par un V, vous avez une idée?
Verbicruciste.
Verbicruciste, c'est votre métier, on peut dire métier, vous en vivez à plein temps.
J'en vis à plein temps, oui.
Et vous aussi Philippe Dupuis?
Oui, bien sûr.
Pour vous, Philippe,
on est peut-être parmi les rares qui en vivent à plein temps.
C'est vrai, il y a beaucoup de verbicrucistes pour qui c'est une activité parmi d'autres.
Oui, il y a beaucoup de. C'est un métier qui est fait. Alors, je suis un peu à l'exception, mais qui est fait par des gens qui sont plutôt âgés normalement, oui. Donc souvent qui sont à la retraite. Donc souvent, oui. Ils n'ont pas forcément besoin d'en vivre à plein temps. Mais c'est vrai qu'on est très peu à vivre de cela, vraiment en faire une grille tous les jours, comme c'est notre cas.
Aussi parce qu'il y a dans la presse écrite moins de grilles de mots croisés, Philippe Dupuis.
Il n'y a pas moins de mots croisés. Je pense pas qu'il y en ait moins. Ouais. Il y a surtout beaucoup maintenant de fournisseurs de mots croisés qui sortent, enfin comme il y a des agences de presse, il y a des agences, on va dire, de mots croisés, qui vont voir les journaux et qui proposent, au lieu de payer un salarié ou une pige, ouais, sur des mots croisés, proposent des fourgons ou des camions de mots croisés prêts ou programmé par des ordinateurs.
Fabriqué automatiquement, oui, quasiment.
Comme des fascicules de mots croisés, en fait.
On est parti tout de suite dans la conversation. J'ai même pas eu le temps de vous présenter en détail pour vous, Philippe Dupuis, le journal Le Monde. Une grille tous les jours, une le week-end. Et pour vous, Gaëtan Goron, c'est dans l'IB. Il y a beaucoup de questions au standard. On va y aller directement. Michel, avec nous. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je suis addictif, en fait.
Vous êtes addictif ou addict?
Je souffre et j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est un peu moins que la nicotine, bon. Mais c'est ma belle-mère qui m'a contaminé il y a quelques années et j'ai un manque, quoi. Quand j'ai pas, en plus sur le papier, j'avais une petite question d'ailleurs à poser et donc je voulais savoir s'il y avait pas un numéro vert ou quoi, vous savez, où on
ce peut genre
poser des questions pour, et s'il y a des cures ou des clubs de cruciverbistes anonymes.
Est-ce qu'il y a un numéro vert? Est-ce que vous avez, j'imagine que oui, d'ailleurs des liens réguliers avec ceux qui remplissent vos grilles. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a des accros comme l'auditeur qu'on vient d'entendre.
Et dans ce qu'il vient de dire, ce qui est intéressant, c'est aussi le côté générationnel. On se transmet de belle-mère à gendre. De moi, je sais que qui font mes grilles, il y a des très jeunes, des très vieux, des hommes, des femmes. Et c'est quelque chose qui existe. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est lors de la création de la grille, d'essayer de mettre des mots qui vont pouvoir parler à peu près tous ces gens-là, et c'est pas forcément facile parce qu'on connaît pas forcément notre public.
C'est ça, il faut s'adresser à quelqu'un, on fait la grille pour quelqu'un, de même que un journal comme Libération ne formule pas ses articles exactement de la même manière qu'un journal comme Le Monde ou Le Figaro. C'est pareil quand on fait les mots croisés pour un journal.
Moi je pense que c'est intéressant justement de coller à l'ADN du journal par, ouais, rapport à ça. Quand Libé fait beaucoup de une hommage lorsque quelqu'un décède, moi j'essaie de faire dans la journée, quand on apprend le décès de quelqu'un, une grille et que je glisse c'est comme ça. Voilà, ça fait partie de l'ADN du journal, vous jouez sur les titres, jouez sur les mots. Et je pense que c'est important de coller à l'identité du journal pour lequel on travaille.
Philippe Dupuis?
Moi, je pense, mais on colle naturellement à son journal. Bien naturellement. Quand Le Monde m'a embauché, j'ai fait pendant 3 mois les mots croisés de Libération avant de faire ceux du Monde, il y a longtemps déjà. Ouais.
Vous avez été embauché au Monde il y a une vingtaine d'années, c'est ça?
Et quand Le Monde m'a embauché, mon rédacteur en chef, puisqu'on a un rédacteur en chef pour les mots, enfin pour, pas pour les mots croisés, mais pour le journal, à Libération, j'avais demandé à Laurent Geoffrin, je m'avais dit, tu fais du Libération.
Ok.
Bon, arrivé au Monde, j'ai dit, je fais quoi? Et mon rédacteur en chef m'a dit, tu fais du Philippe Dupuis. Ce qui m'a effectivement plutôt flatté. Et c'est vrai que chacun, dans sa personnalité, en fonction de son journal, devient le journal. Surtout dans la durée du... Enfin, dans le temps. Ça me paraît naturel. Ensuite, les tranches d'âge, pour moi, c'est un peu les lecteurs du Monde qui se transmettent, mais qui ont quand même tendance à vieillir.
Pardon, ça dit quoi un rédacteur en chef, un verbicruciste? Quel regard il porte sur votre grille? Quelle remarque il peut vous faire? Il vous dit c'est trop dur, c'est trop facile? Qu'est-ce qu'il vous dit?
Pardon, je continue.
Allez-y, je vous en prie.
À une époque, on m'avait demandé de faire des grilles graduées, c'est-à-dire de faire un peu comme on peut faire des sudoku faciles, moyens, etc. Et moi, j'ai refusé parce que je suis incapable de dire c'est facile, c'est difficile. Je fais mes grilles. Il y a des jours où elles sont faciles, des jours où elles sont moins faciles. Oui. Enfin bon, ça me paraît naturel. En revanche, le rédacteur, il y a bien un rédacteur en chef qui est responsable des pages où vous êtes. Et alors là. J'ai eu des rédacteurs chefs qui lisaient les mots croisés et il y en a d'autres qui qui les regardent pas. Donc c'est le lecteur à ce moment-là qui.
Il y a deux choses qui m'agacent, Gaëtan Goron, je fais des mots fléchés, on en parlera, c'est un complexe de mon côté. C'est les mots fléchés trop faciles ou les mots fléchés trop durs? Et j'ai l'impression que c'est, au fond, c'est deux défauts. Quand c'est trop facile, c'est pas amusant. Quand c'est trop dur, c'est pas amusant non plus.
Le mot fléché, c'est quand même très difficile à créer. Déjà, il y a moins de grilles qui sont créées de mots fléchés, tout simplement parce qu'on a beaucoup moins de place pour mettre la définition. Et du coup, là, c'est très compliqué. Moi, ce qui me plaît vraiment dans le mot croisé, c'est d'avoir cette latitude de mettre une définition d'une lettre ou parfois de même pas mettre de mots. Si je veux définir le mot néant, je vais juste mettre un blanc et ce sera au cruciverbiste de trouver. Alors que dans le mot fléché, on n'a vraiment pas de place. Donc c'est très compliqué de faire des mots fléchés qui sont vraiment intéressants avec un niveau de... C'est très compliqué.
J'ai l'impression que les purs de purs, c'est les mots croisés et que les mots fléchés comme moi, c'est des petits joueurs, quoi. C'est des gentils dilettantes. Qu'en dites-vous, Philippe Dupuis?
Non. Alors, les purs des purs sont les mots croisés. Ensuite, les purs des purs ont chacun leurs auteurs éventuellement de mots croisés.
Oui, c'est ça.
Bon, certains ne verront que par Michel Laclos qui est mort depuis 10 ans, parce que, historiquement.
Figaro Magazine.
Quant au mot fléché, si vous êtes sur la plage, c'est quand même plus facile de faire un mot fléché qu'un mot croisé. Donc, c'est très amusant à construire des mots fléchés. C'est moins jouissif, c'est évident.
Vous citiez Michel Laclos. Il y a un pape des mots croisés. Il y a un Roger Federer des mots croisés auxquels on se réfère. Gaëtan Goron, vous qui êtes un peu plus jeune, il y a comme ça un grand modèle.
Il y a plusieurs noms. Il y a Scipion, Pérec, qu'on a fait en son temps. Il y a plusieurs noms des mots croisés. Il n'y a pas forcément de référence. Et puis c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas d'école. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment sur le tas. Il y a des bases. Pérec, dans ses mots croisés, chez Folio, il y a un petit encart au début où il explique sa façon de les faire, sa façon de les voir. Drillon, qui est un autre verbicruciste, a écrit une théorie des mots croisés, mais après c'est vraiment à chacun, je pense, d'incarner, et c'est ça justement qui va nous différencier aussi des grilles faites par ordinateur, d'incarner sa grille, de mettre de soi, et ce qui va faire que justement ça va créer l'addiction chez certains de vos auditeurs, ou pas du tout. Moi, il y en a qui vont pas du tout aimer et qui vont aller chez Philippe ou d'autres, et c'est ça justement, je pense qu'il faut les incarner. Et après, il n'y a pas forcément de modèles, mais il y a plusieurs auteurs. Oui.
Vincent au standard, bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Nous écoutons votre question.
Je suis un pratiquant assez régulier des mots croisés, avec plutôt sur la croix avec Arthur Gary, avec des grilles en 10-10 pour la semaine et puis des grilles en 18-18 pour le week-end.
Oui.
D'abord un constat, il y a deux métiers. Il y a le métier de faire la grille et le métier de trouver les définitions. Et ça, à mon avis, c'est deux métiers très différents. On pourrait savoir bien faire l'un et mal l'autre. Ou enfin voilà. Et ensuite, j'ai deux questions. C'est celui qui conçoit, comment fait-il quand il part d'une grille blanche? Je veux dire, par quoi il commence? Et de temps en temps, on trouve des mots qui sont vraiment totalement improbables, tout en démarrant, j'allais dire, par le haut ou à gauche, par exemple. Et la deuxième question, c'est que moi, personnellement, j'utilise un logiciel qui me permet de compléter des mots quand je ne les trouve pas. Ça peut servir mot croisé. Mais vous, concepteur, est-ce que vous avez un outil un peu similaire qui vous permet de compléter vos grilles? Parce qu'on trouve des villes, on trouve des cours d'eau, des personnalités historiques. Ça tombe de nulle part, quoi. Et je suis vraiment toujours très, très fan et très admiratif de tout ce que trouvent ces concepteurs.
Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour vos questions. Alors d'abord, deux métiers différents. Est-ce que vous remplissez des mots croisés? Est-ce que vous êtes cruciverbiste autant que verbicruciste, Gaëtan Goron?
Moi, j'en résous très peu. Okay. J'en résous pas. En revanche, dans ce qui est intéressant, là encore, c'est le côté très mathématique de la construction du puzzle de la grille et le côté très littéraire de la recherche des définitions. C'est vraiment, comme ce monsieur le dit, un exercice très différent. Pour ma part, moi, je peux pas faire les deux l'un à la suite de l'autre. Je vais un jour créer plusieurs puzzles, donc mathématiques, où je vais assembler mes mots dans la grille. Et le lendemain, je vais définir ces grilles-là que j'ai créées la veille. Mais comme c'est vraiment deux cheminements de pensée très, très opposés, moi, j'arrive pas à faire les deux en même temps.
Philippe Dupuis, comment on part d'une grille blanche? Comment ça se passe?
Déjà, dans notre travail quotidien, notre grille, elle est définie par un gabarit, par un format qui va dans le journal. Mes grilles du quotidien, qui font 12 de largeur sur 10 de hauteur, chacun après a ses manies. J'essaye d'ouvrir avec un mot qui ferait 12 lettres. Donc, au bout de 6000 grilles, vous pensez bien qu'on a écumé tous les mots de 12 lettres. Donc, on peut les reprendre, les mots. Il n'y a pas de problème.
On peut en changer les définitions.
On peut changer les définitions, etc. Une fois qu'on a mis son premier mot, éventuellement, on a pensé à ce qu'on va mettre comme définition, parce que ce mot, on le choisit. Une fois qu'on a mis son premier mot vertical, qui fait 10 lettres, on a ce qu'on appelle la potence. Le reste, c'est un puzzle. C'est-à-dire, vous rentrez des mots, et moi, je pense pas du tout aux définitions à ce moment-là. Je construis ma grille comme un puzzle, et c'est vrai que c'est un jeu mathématique ou pas, ça dépend, mais... J'essaye de faire la plus belle grille esthétique en choisissant quelques mots, et après je fais mes définitions.
Quand vous parlez d'esthétique, case noire, 10%, c'est ça la règle d'or?
Il n'y a pas trop de règles d'or, mais c'est vrai que une grille de mots croisés, c'est un ensemble de contraintes. Et chaque auteur se fixe ses contraintes propres. Il y a des auteurs qui ne veulent avoir aucune case noire dans tout le pourtour de la grille. D'autres qui veulent absolument qu'il y en ait deux qui soient contigus, ils se l'interdisent aussi. Et après, c'est vrai que plus il y a de cases noires, moins la grille est intéressante, parce que plus il y a d'aide. En fait, une case noire, c'est comme si vous aviez un joker qui vous aide, qui vous repousse. Et moins il y en a, plus la grille va être difficile. Donc c'est vrai que c'est bien d'arriver à cet équilibre de 10%. Qui est pas très difficile à trouver quand on crée la grille et qui est un bon équilibre.
C'est le Graal, la grille zéro case noire. Vous avez déjà réussi cela, l'un et l'autre?
Oui, quand on fait une grille de 5 sur 5, on fait zéro case noire. Quand on fait 7 sur 7, ça devient compliqué. Et au-delà, c'est, je crois, quasiment impossible. Ou alors, on met des mots impossibles à trouver.
Alors, je savais que je serais frustré, on arrive déjà presque au terme de cet entretien. Si on vous a réunis, je voulais raconter cette histoire quand même. C'est que le 29 janvier, Gaëtan Goron, vous avez mis cette définition dans votre grille de Libé. Près de 80 ans que cet intrépide parcourt le monde. Alors, la réponse, c'était...
C'était Bug Dany.
Mais c'était un hommage à Philippe Dupuis. Vous aviez ajouté, entre parenthèses, Dupuis, qui est l'éditeur de Bug Dany. Donc, clin d'œil. Et vous avez répondu, Philippe Dupuis, le 25 avril, pour croiser Goron derrière ses lignes. La réponse, c'était...
Libération.
Vous voyez, vous parlez souvent?
Ah oui, mais en fait, moi, quand j'ai voulu créer des grilles de mots croisés, il y a 7-8 ans maintenant, je l'ai rencontré parce que je voulais vraiment faire de ça mon métier. Et depuis, on se voit pas très régulièrement, mais on se voit tous les 3-4 mois peut-être.
Oui.
Et voilà.
je sais pas, il y a des séminaires de verbicrucistes, vous vous rencontrez les uns les autres régulièrement, au-delà de votre cas à vous et du clin d'œil?
Honnêtement, un petit peu, mais on n'est pas si nombreux que ça.
Oui.
C'est un travail de solitaire. Donc, on a des affinités, voilà, on va dire.
C'est un travail de solitaire.
Oui, absolument.
Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus dans les studios de France Inter. On vous retrouve donc pour l'un dans Le Monde, pour l'autre dans Libération. Si, encore une toute petite question. Il y a maintenant des mots qu'on peut remplir, si j'ose dire, avec les doigts sur la tablette ou le téléphone dans Le Monde en version numérique. Pas dans Libé ?
Non, mais je vous invite pour un autre jeu, si vous voulez, à partir du 24 novembre dans Libé. Il y a un petit jeu de piste sur 15 grilles avec des mots en jaune et à la fin, il faut reconstituer un texte. Donc si ça vous dit, rendez-vous le 24 novembre.
Bon, c'est noté. Merci encore à tous les deux d'être venus. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Avant le livre d'Éric Zemmour, celui d'Edouard Drumont.
Deux polémistes ambitieux en 7 lettres, chacun.
Le feuilleton, dernier épisode de notre série consacrée à la transmission des exploitations agricoles. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le Conservatoire de Marseille fête ses 200 ans ce week-end, créé donc en 1821. Il porte le nom de Pierre Barbizet, l'un de ses anciens directeurs, qui était pianiste et pédagogue. Et c'est aujourd'hui un saxophoniste, jazzman, qui dirige le conservatoire, Raphaël Imbert, qui avait reçu une victoire du jazz en 2018. Alors il fallait bien le souffle d'un saxophoniste pour souffler 200 bougies. Raphaël Imbert est à votre micro, Frédéric, le temps d'une chanson.
Et avant de parler chanson, avant d'écouter une chanson, il m'a tout d'abord expliqué quelle était sa conception du jazz.
Personne ne sait ce que ça veut dire jazz, en fait. Étymologiquement, il y a à peu près 27 316 hypothèses différentes. Vous mettez 4 musiciens de jazz ensemble, généralement vous avez 5 définitions du jazz, donc en fait c'est génial. Pour ça, c'est un mot plus que valise, ce truc-là. Moi j'ai même un petit mantra que j'aime bien donner, c'est le jazz, c'est le geste musical qui me permet de jouer avec qui je veux, quand je veux. Voilà ma définition du jazz, qui me permet de présenter les projets que j'essaye de mener avec des musiciens très différents, que ce soit avec des musiciens classiques, des musiciens de musique actuelle, pour juste revendiquer une capacité à improviser, à créer ensemble, à créer en temps réel, quoi.
Un champ d'étoiles pour clocher, quatre maisons, l'une après l'une, jouant dans l'ombre à chat perché. C'est mon village au clair de lune. Au-dessus d'elle, tout poudreux, le vieux moulin de la commune, plein de murmures d'amoureux. C'est mon village au clair de lune.
Et c'est une chanson écrite en 1939 qu'a choisi Raphaël Imbert, Frédéric.
Mon village au clair de lune, musique de Jean Lutèce, paroles de Jacques Larue, chanson écrite pour Jean Sablon et reprise 30 ans plus tard par Bourvil en 1968, un petit bijou musical aux yeux du directeur du conservatoire de Marseille.
Vous écoutez les paroles, c'est extrêmement simple, c'est presque simpliste, un côté vieille France, on va dire. Mais bon, en fait, on a tous connu des villages comme ça. J'ai l'image tout de suite, moi qui ai grandi un peu, justement, dans un petit village de Provence, j'ai l'image qui vient immédiatement. Et derrière, il y a un art de l'harmonie, de la mélodie, de la poésie harmonique, d'un rythme, d'un swing très léger. La notion de swing, c'est balancer. C'est vraiment ce côté où à la fois c'est pas totalement hystérique, où c'est pas totalement fou, tout en étant un peu iconoclaste. Et cette chanson, elle représente cet art de la chanson française au moment où la chanson française s'intéresse très activement, mais l'air de rien, à ce que le jazz représente et ce que le swing représente. Ça m'est arrivé d'écouter cette chanson sur les routes aux États-Unis pour voir ce que ça faisait. Ça marche très très bien aussi, surtout quand il y a un beau clair de lune au fin fond de l'Arizona, ça marche super bien.
Aussi de tous mes souvenirs, faits de bonheur ou d'infortune, le plus fidèle à revenir, c'est mon village au clair de lune.
Vous auriez pu choisir la version chantée par Jean Sablon. Vous avez choisi la version chantée par Bourvil. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ?
Bourvil, pour moi, c'est Louis Armstrong français. C'est-à-dire que comme certains chanteurs de jazz, c'est quelqu'un qui, dans la minute, est capable de vous faire rire et pleurer juste sur une inflexion de voix. Je ne connais pas d'équivalent en France, même Jean Sablon, même Charles Trenet, que je vénère, même Brassens, dans Mon village au clair de lune, et à ce moment précis où il parle des déceptions amoureuses, je ne peux pas ne pas essuyer une larme à ce moment-là. Et en tant que musicien et analyste, je suis très étonné, et pour moi c'est de la haute virtuosité, comment en une petite inflexion, juste un changement dans le grain de la voix, dans la façon de poser la note, comment finalement une seconde on change totalement d'émotion. En fait, il a un sens musical totalement unique.
C'est mon village au clair de lune.
Mon village au clair de lune par Bourvil, le Louis Armstrong français. C'était donc Frédéric, le choix du jazzman Raphaël Humbert.
Le directeur du Conservatoire de Marseille, dont on célèbre les 200 ans ce week-end avec notamment une nuit du jazz ce soir à partir de 18h.
Et pour ceux que cela intéresse, il y a beaucoup d'émissions dès aujourd'hui chez les copains de France Musique, 13h49. Le feuilleton, dernier épisode de la semaine à la ferme de Surminette, près de Rennes et Fougères en Bretagne. On va s'en éloigner en fait un tout petit peu. Il est question depuis lundi de la transmission des exploitations agricoles. Dans la famille Juinier, le père, Claude, a donc cédé l'exploitation. Non pas à un de ses 5 enfants, personne n'en voulait, mais à un agriculteur extérieur à la famille qui s'appelle Stéphane. Et c'est sur Internet qu'ils ont trouvé le repreneur. La plateforme Objectif Terre de l'association Terre de Liens met en relation vendeurs et acheteurs pour permettre le maintien d'une agriculture saine et à taille humaine. Alors Thibault Lefebvre, pour boucler ce feuilleton, a rencontré les deux animatrices du site, Josépha et Lisiane.
Il y a de la Wi-Fi à la campagne.
Il y a de la Wi-Fi à la campagne qui marche, oui.
Objectif Terre, c'est un outil, c'est cette plateforme internet qui met en relation les porteurs de projets et les vendeurs de terres agricoles et de fermes. Comment ça fonctionne? Elle ressemble à quoi cette plateforme?
Sur cette plateforme, on peut trouver différentes entrées. Donc il y a l'entrée porteur et porteuse de projet en recherche de terre. Donc on clique et puis là, on va pouvoir déposer une annonce. Et donc là, par exemple, on a un collectif qui s'appelle Culture Culture qui voilà cherche des terres agricoles aux alentours de Papol, dans un rayon de 50 km. Eux, ils sont 6 associés, par exemple, et ils souhaitent s'installer avec des formations en plantes aromatiques et médicinales, un projet en maraîchage. Et moi, j'ai validé cette annonce.
De l'autre côté, vous avez des annonces de vente de fermes ou de terres agricoles.
Voilà, on a des annonces donc, d'agriculteurs ou d'agricultrices qui souhaitent céder leur ferme et trouver des porteurs et projets qui souhaitent s'installer et éviter que leur ferme parte à l'agrandissement. Cette plateforme Objectif Terre, elle a été pensée et créée par Terre de Liens parce qu'on se rendait compte que l'accès à la terre et au foncier agricole est particulièrement compliqué et d'autant plus pour les personnes hors cadre familial. Donc il faut savoir, sur les candidats à l'installation, on a environ 60% qui ne sont pas issus du milieu agricole. Il y a environ 1200 annonces. Sur un an, on a eu 500 000 visiteurs.
Je me retourne vers vous.
Je suis Lisiane Jarnot, co-animatrice et coordinatrice à Terre de Liens Bretagne. Une des grosses problématiques du foncier, c'est bien la mise en relation entre des futurs paysans qui cherchent du foncier et des cédants. Quand on regarde les chiffres, on pourrait se dire que ça matche en fait, puisque sur la Bretagne, il y a 32 000 fermes. On sait que la moitié des paysans vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir. Donc on a en gros 1200 personnes qui vont partir en retraite chaque année. De l'autre côté, au niveau de la Chambre d'agriculture, chaque année, il y a en gros 2000 personnes qui se signalent comme en projet d'installation. Donc ça matche, sauf qu'au final, sur une année, on est plutôt autour des 500 installations par an en Bretagne. Et donc, il y en a 1500 qui ne trouvent pas de foncier ou qui arrêtent leur projet d'installation. Et de l'autre côté, on a pas loin de 1000 personnes qui potentiellement souhaitent transmettre, mais vont soit abandonner, soit se tourner vers l'agrandissement parce qu'ils ne trouvent pas le porteur de projet, le futur paysan en face.
Pourquoi statistiquement, comme vous dites, je reprends vos mots, ça match. Et pourquoi ça ne fonctionne pas?
Du côté des cédants, on se rend compte qu'il y a une question de vision, comme on disait. Hein. Est-ce que ma ferme est reprenable ? Il y a aussi des pressions locales, de voisins qui veulent s'agrandir, par exemple. Et puis, il y a des différences de profil. Si on reprend la Bretagne, on a principalement des grosses fermes laitières. Et en face, on a principalement des jeunes qui cherchent à s'installer sur des modèles nouveaux, finalement, en maraîchage, en plantes aromatiques et médicinales, ou avec des petits ateliers d'élevage. Et donc, il y a un problème de communication, souvent, entre ces deux profils. De l'autre côté, au niveau des jeunes, il y a souvent aussi un gros souci, c'est le calendrier entre le vendeur et l'acheteur. Donc le jeune, parfois, on lui demande de se positionner en moins de 15 jours et essayer d'aller obtenir un accord bancaire en 15 jours, c'est pas forcément évident sur des investissements agricoles.
Là, on se rend compte sur la ferme de Surminette, il y avait beaucoup d'autres agriculteurs autour et les voisins qui lorgnaient un peu sur les terres de Claude et de ses enfants.
En général, ça ne se dit pas forcément après dans les statistiques. Effectivement, les terres qui restent dans le domaine agricole, on enlève l'artificialisation, l'urbanisation, on considère qu'il y a quasiment un hectare sur deux qui part à l'agrandissement.
Et ça, c'est un problème ?
Oui, c'est un problème parce que c'est savoir est-ce que demain on veut des fermes de 1000 hectares, de 10 000 hectares ou est-ce qu'on veut des fermes vivantes sur des modèles à taille humaine ? En Bretagne, on a plusieurs fermes de plus de 1000 hectares. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaité politiquement et par la société ?
Une semaine dans leur vie, le feuilleton qui était cette semaine réalisé par Lucie Lemarchand, comme toujours, et au reportage, c'était Thibault Lefebvre. Ce feuilleton, vous en retrouvez les épisodes sur franceinter.fr ou sur les plateformes de podcast, celle de Radio France, par exemple. Une semaine dans leur vie, au pluriel.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, en revenant à la fin du 19e siècle, dans l'histoire de la presse, des médias, du débat public, on trouve de quoi éclairer le succès actuel d'Éric Zemmour. Son livre est le plus vendu cette semaine à la catégorie essais et références, selon le site Edistat. Il est édité à compte d'auteur. C'est arrivé à d'autres best-sellers politiques.
Bah, par exemple, en 1886, à Édouard Drumont, pour lui, ça a matché. À 40 ans, c'était un journaliste qui n'avait pas encore percé. Il était amer d'avoir appartenu à une famille contrainte de se réfugier dans les mansardes, alors que des nouveaux riches interlopes occupaient les étages nobles. Et c'était, à ses yeux, un des signes de la déliquescence française. Il en était venu à en attribuer l'explication à un facteur univoque. Alors aujourd'hui, d'aucuns parleraient de la responsabilité des musulmans ou de celle des femmes ou des gays. Drumont, d'ailleurs, disait que lorsque la femme montait et que l'homme descendait, c'était déjà la décadence. Mais le fait premier pour lui, c'était l'envahissement du pays par les Juifs. Et l'ouvrage qu'il publie à ses frais, en 1886, donc, s'appelle « La France juive ». Pour délivrer le pays, il imagine des remèdes de cheval, la suspension du droit républicain, le recours à l'homme providentiel.
Cela dit, en 1886, le succès ne couronne pas tout de suite la France juive.
Ben, les premiers comptes rendus assurent le lancement, mais non sans un certain embarras. Le Figaro dit bien que Drumont exprime ce que nous pensons tout bas, néanmoins il y a la manière et la sienne est trop sauvage. Mais à l'époque, ce qui annonce nos affrontements sur les réseaux sociaux, c'est le duel en face à face au Bois de Boulogne. Et tour à tour, un journaliste anticlérical de Paris et le directeur juif du Gaulois envoient leurs témoins à Drumont. Publicité assurée, le livre avait été tiré à seulement 2000 exemplaires. Au printemps 86, il atteint les 60 000.
Les chiffres qui peuvent être atteints aujourd'hui sont bien supérieurs.
Oui, mais la structuration du succès politique se fait autrement, moins par le livre, surtout par la presse. Néanmoins, la comparaison entre la fin du 19e et le début du 21e, c'est possible. L'historien Gérard Noiriel l'a tenté dès 2019 dans un livre qui rapprochait les phénomènes Drumont et Zemmour. Il y a chez chacun la même obsession des origines, de la généalogie, c'est entendu, mais surtout la promotion de l'un et de l'autre n'a été possible que par un changement d'étiage des médias. Noiriel explique, si Zemmour vend autant, c'est largement à cause de sa présence sur les nouvelles chaînes d'information continue et sur les réseaux sociaux. L'envol de Drumont, lui, a coïncidé avec l'apparition d'une presse millionnaire. Il venait de petits journaux, même celui qu'il fondera en 1892, La Libre Parole. La France offensant aux Français, c'était son sous-titre, atteindra rarement les 100 000 exemplaires. En revanche, La nouvelle bande des quatre, Le Petit Parisien, Le Petit Journal, Le Matin et Le Journal, c'est dorénavant, en 1900, 4,5 millions d'exemplaires. Mmh. Alors, quelle que soit la prudence qu'affiche Le Petit Parisien, qui se veut un régulateur des passions collectives, ses titres de la presse industrielle sont prêts à tous les coups pour l'emporter face à la concurrence. Et que, par exemple, quand ils racontent des faits divers, ils font prévaloir des explications simplistes, l'antisémitisme leur doit beaucoup, mais aussi bien l'antimaçonnisme, l'antimilitarisme, l'anticléricalisme.
Et les années 1880 sont aussi celles où la liberté de la presse est à son zénith.
Bah oui, 1881, la loi sur la liberté de la presse, les attaques personnelles se multiplient mécaniquement. Ces années sont aussi celles du développement des agences publicitaires et de leur concentration sous la marque Havas. Permettez-moi encore une comparaison avec les réseaux sociaux. Que disait cette semaine à Paris Frances Haugen, une ancienne de Facebook qui s'est transformée, on le sait, en lanceuse d'alerte. Les recettes publicitaires sur les réseaux sociaux sont d'autant plus fortes que les utilisateurs sont profilés, ciblés, et plus les positions sont tranchées, clivées, plus elles attirent les utilisateurs. La concentration, elle est peut-être plus forte aujourd'hui encore qu'à cette époque. Les entrepreneurs de guerre civile ou les héritiers de Drummond ont de bons jours devant eux.
Merci Jean Lebrun. Intelligence Service, demain un tout petit mot.
Quel est Virginia Woolf.
C'est noté, ce sera à 18h. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
C'est vendredi, c'est la Terre au carré comme tous les jours à 14h juste après le flash.
Voilà, version club avec la voilà. COP26, l'eau au Niger et les oiseaux marins au programme.
A tout de suite.
Le progrès, c'est quoi? Le progrès pour une entreprise, c'est savoir se renouveler, se réinventer. C'est être capable de sortir de sa zone de confort pour affronter les difficultés ou répondre à de nouveaux défis. Ada Gershouch est handicapée. Être en dehors de sa zone de confort, c'est son quotidien.
Je m'appelle Ada, je suis coach en entreprise. Le progrès, c'est moi.
AGFIP. Ensemble, montrons que les personnes handicapées font progresser les entreprises. Du 15 au 21 novembre, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Témoignez de votre engagement sur activateurdeprogrès.fr.
En ce moment, comme je ne peux pas aller voir maman, je l'appelle en visio, sur sa tablette ardoise. Ça la rassure. Et je dois avouer que moi aussi.
Avec la tablette ardoise proposée par La Poste, les seniors découvrent la joie d'être connectés à Internet et à ce qu'ils aiment. Et jusqu'au 31 janvier, la tablette est à 199€ hors prix de l'abonnement au service ardoise. Une solution mon bien vivre à retrouver à La Poste ou sur ardoise.com.
J'ai 70 ans. Et l'avenir devant moi. J'ai 30 ans et j'espère pouvoir bientôt en dire autant.
J'ai fait un leg à Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir.
Faire un leg à Gustave Roussy, c'est soutenir la recherche contre le cancer pour le plus grand bénéfice des générations à venir.
Et des générations d'aujourd'hui.
L'avenir a besoin de vous. Léguez à Gustave Roussy. Demandez notre brochure Leg Donation Assurance Vie au 01 42 11 62 10.
La rédactrice en chef du 13-14 est Sarah Guibaudot, attachée de production Claire-Sophie Collet, à la rédaction en chef du 13h Estelle Schmitt et Anne Patinac, à la technique cette semaine Michel Bézikian et Clément Berman. Merci également à Benjamin Ducy et Rachid Zourdani, ainsi qu'à Jade Riahi et Alice Galtier qui étaient au standard. 14h et presque une minute.